L'an dernier, la Suisse romande découvre avec stupeur que des adolescentes se prostituent dans un barbershop à Genève.
Ben, je pensais que j'étais grande, que je savais tout, que je gérais la situation, alors que pas du tout.
Une affaire qui révèle au grand jour une réalité cachée, mais plus répandue en Suisse qu'on l'imagine. Comment agir pour éviter que la prostitution de mineurs n'explose comme en France ?
Depuis un an et demi, c'est une pandémie. C'est de la consommation de masse d'enfants.
Premier client, je lui dis que j'ai 11 ans et que j'ai été forcée, que je voulais pas le faire. Il me répond que c'était pas son problème parce que lui c'était un client et que moi j'étais la travailleuse.
Le foyer m'a appelé en me disant votre fille avait un test de grossesse positif. Et là moi ça a été l'effondrement quoi.
Qui sont ces jeunes filles? Comment se font-elles embrigader? Deux d'entre elles ont accepté de témoigner, une parole rare et crue.
Je suis considérée comme la pute. Je suis bien plus qu'une pute. Mais j'ai été une pute et il n'y a que ça qui compte.
L'affaire du barbershop remonte au 8 mai 2025. Il est 6h du matin, le jour n'est pas encore levé, quand la police débarque en force dans un barbershop à proximité de la gare de Genève. 8 personnes sont interpellées, les gérants du barbeur, mais aussi des clients soupçonnés d'avoir des relations tarifées avec des mineurs. L'opération a mobilisé une soixantaine de policiers et nécessité plus d'un an et demi d'enquête avec planque, écoute téléphonique et perquisition au petit matin. Ceux que nous appellerons Jacques et Léon s'en souviennent très bien et pour cause. L'un habite dans le même immeuble et l'autre tient un commerce dans le quartier.
Il y avait une intervention qui était en place. Il y avait manifestement deux individus qui étaient menottés. Il y avait la justice qui était là. Il y avait la brigade canine qui était là.
On a vu qu'ils étaient là pour mettre un terme à quelque chose. On voyait bien qu'ils ne faisaient pas que de couper des barbes et des cheveux.
Très rapidement, on a vu du deal. Ça, c'était évident, vraiment. C'est clair que c'était une plaque tournante.
Et puis, il y avait, je pense... tous les vendredis soirs, en tout cas à la fête, sur le trottoir et dans le barbershop. C'était devenu presque une discothèque.
Les images encore présentes sur les réseaux sociaux témoignent en effet d'une ambiance festive, loin, très loin du barbeur classique.
En revanche, est-ce que vous avez déjà vu des mineurs ?
Non. Non. Alors, c'est choquant d'imaginer que ça se passait dans notre immeuble, en fait. Là où on vit. À se dire qu'on aurait pu être témoin de ça, peut-être. Je sais pas, intervenir plus tôt, on n'a rien vu.
D'après l'enquête, 6 mineurs se sont prostitués pendant plus d'un an à l'intérieur du barbershop, souvent le soir, quand les rideaux étaient tirés. Au moment des faits, Sarah avait 16 ans. Elle en a aujourd'hui 18. Avec l'accord de la juge et le soutien de sa curatrice, Sarah a eu le courage de nous parler de ce passé qui continue de la hanter.
Comment tu es arrivée dans ce barbershop ?
C'était une copine à moi qui traînait là-bas. Et un jour, il pleuvait, elle nous a dit on va aller quelque part. Du coup, on est allé. Et après, petit à petit, on allait là-bas tous les jours. Les gens, ils étaient gentils, c'était la fête, quoi. Du coup, c'était sympa. J'ai commencé la cocaïne, la toussi. C'est un mélange de plusieurs drogues, kétamine, LSD, cocaïne, fluoxétine.
Et qui te donnait la toussi ou de la coke?
Les mecs du...
Gratuitement?
Oui. C'était une période où je couchais un peu à droite, à gauche. C'est le gérant qui nous a dit, ben, s'ils veulent coucher avec vous, vous dites oui, mais vous demandez un billet. Sauf qu'au bout d'un moment, ils ramenaient des gens spéciaux, on va dire. Et, ben, on avait le choix en soi, on pouvait dire oui ou non. Mais c'était plus simple de dire oui.
Et lui, il touchait quelque chose? Il touchait une commission?
Pas à ce que je sache. En tout cas, moi, l'argent que je recevais, je le gardais. Il n'y avait personne qui y touchait. C'est juste pour moi qu'eux, ils avaient l'occasion de faire venir plus de clients. Et les clients, ils venaient faire les soirées et ils disaient « Ouais, il y a des filles ».
Sarah s'est prostituée au barbershop pendant des mois.
Ça se passait dans le barbershop, Sarah ?
Au deuxième étage.
Sur la mezzanine ?
Mm-hmm.
Il y avait encore des clients, il y avait encore des gens dans le barbershop quand ça se passait ? Ces clients, ils avaient quel âge ?
Ça dépend, ça allait de 20 à 60.
Et tu penses pas qu'ils pouvaient voir que tu étais mineure ?
Si, ils pouvaient le deviner, mais... Il fallait vouloir le deviner.
Nous avons contacté les avocats des prévenus, notamment celui du gérant du barbershop, mais celui-ci n'a même pas voulu nous confirmer qu'il représentait la personne en question. Faute d'avoir pu recueillir leur version des faits, nous avons donc cherché à retrouver des employés qui y travaillaient régulièrement.
Bonjour monsieur, je suis journaliste à la RTS pour l'émission Temps Présent et je fais un reportage sur autour du barbershop.
J'ai rien à voir avec cette histoire là. Et pourquoi monsieur est en train de filmer?
Mais parce que c'est notre équipe, c'est simplement. Non mais si vous acceptez de nous parler.
J'accepte pas. Des choses avec des enfants,
ouais.
C'est impossible, ça c'est très horrible.
Vous n'avez jamais assisté à ça?
Ni assisté à ça parce qu'il n'y a rien.
Pour vous, c'est faux.
Pour moi, c'est faux.
La justice tranchera. Une instruction pénale est en cours, notamment pour actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération et encouragement à la prostitution. Le procès devrait se tenir cette année encore. Ève Dolon est l'avocate et la curatrice de Sarah. Elle attend le verdict avec confiance.
Vous pensez que les clients percevaient de fait qu'elle était mineure?
Oui. Oui. Alors, c'est une très jolie jeune fille, mais vous voyez que c'est une enfant. Enfin, c'est une grande enfant, mais vous voyez que c'est une enfant.
Et vous avez l'espoir que ces clients tombent pour acte d'ordre sexuel sur mineur?
Oui, clairement.
Tu as de la colère aujourd'hui par rapport à ces clients?
Comme je l'ai dit, ils ont profité de la situation comme moi j'ai profité de la situation. On a chacun notre part d'erreur. Mais ça sert à rien de leur en vouloir. Ça va changer quoi?
Est-ce que tu te considérais à l'époque des faits comme victime?
Non. J'étais... Je faisais ma vie, quoi. J'ai dit oui. Il y a personne qui m'a forcée. J'ai pris mes décisions. Donc c'est ma faute.
Sarah n'avait pas conscience qu'elle était prise dans un engrenage. Comme beaucoup d'adolescentes qui pratiquent le sexe tarifé, elle ne voyait pas où était le problème dès lors qu'elle était consentante, ce qui limite considérablement les possibilités d'agir pour la justice.
Alors à l'époque, elle ne se sentait pas victime, peut-être même elle se sentait fière d'avoir pu réussir à obtenir de l'argent, entre guillemets, facilement. C'est clairement pas facile, hein. Mais facilement dans sa perception des choses. Donc il y avait une espèce de forme de, de supériorité par rapport à la situation, de gestion de la situation, sans se rendre compte qu'effectivement, elle était abusée.
Et aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle a été abusée.
Aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle a été abusée. Mais aujourd'hui, elle n'a plus le même âge, elle n'est plus dans la même situation. C'est complètement différent.
Comment c'était ta vie avant le barbershop? Tu vivais où?
Avant de traîner au ben, j'étais à la rue. Je fuguais beaucoup. J'étais domiciliée chez mes parents, mais j'y étais jamais. Et un jour, je me suis fait arrêter par la police et après, ils m'ont mis en foyer.
Et au foyer, ça se passait comment, Sarah?
Bah, je faisais ma vie. Je sortais tous les jours.
Et ils te laissaient sortir?
Bah, ils n'ont pas le droit de nous toucher, donc ils allaient vers quoi?
Beaucoup de jeunes filles qui se prostituent vivent en foyer parce qu'elles sont en rupture familiale, affective et scolaire, ce qui les rend très fragiles. Nous avons sollicité la Fondation officielle de la jeunesse qui gère la plupart des foyers à Genève. Nous voulions filmer la réalité des mineurs à l'intérieur d'un foyer, mais la secrétaire générale de la FOGE ne nous a accordé qu'une interview.
Voilà, et puis la formation sur la violence avec...
Alors nous, notre rôle, c'est pas d'empêcher le jeune de sortir. Ça, il faut être très clair là-dessus. Nous, notre mission, c'est vraiment de faire en sorte que le jeune adhère aux règles de lui-même, qu'il comprenne que le cadre sécurisé, il est chez nous, à l'intérieur, et qu'il ait envie de rester. Et puis après, un jeune de 17 ans, ben, vous le savez aussi bien que moi, s'il a envie de sortir, que ce soit chez lui ou dans un foyer, il va sortir.
Est-ce que dans ces 34 foyers que la FOGE gère, vous avez connaissance, Madame Schifferli, de cas avérés?
On a deux cas avérés sur l'année 2025 et puis 14 cas où on suspecte effectivement qu'il y a de l'exploitation sexuelle. Maintenant, ce qu'il faut aussi préciser sur les cas, c'est que les enfants sont aussi placés chez nous parce qu'il y a suspicion d'exploitation sexuelle. Le SPMI est derrière le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, place aussi les jeunes parce que c'est le cadre qui, il l'espère en tout cas, permettra d'éviter que la situation ne dégénère davantage.
Il y a une forme de déni, il y a certains cas assez souvent dans lesquels les foyers disent « c'est étrange, elle ne nous demande pas son argent de poche ». C'est étrange, elle revient avec des vêtements à des heures assez improbables, des tenues aguicheuses, etc. Pour être honnête, tout le monde comprend. Faut arrêter de se mentir. Tout le monde comprend à ce moment-là que l'argent provient d'une source extérieure et vu les tenues, les heures de rentrée, etc., la source extérieure peut être manifestement que la prostitution.
Nous, on met dans les cas de suspicion tous les cas où une jeune fille, effectivement, revient avec des habits qu'elle ne pourrait normalement pas se payer, avec des vêtements ou des sacs de luxe, hein, ça c'est un indicateur, évidemment. Donc non, alors certainement pas d'hypocrisie de notre part. Ni de déni, puisque toutes ces situations sont systématiquement remontées, en fait, au SPMI, d'une part, au curateur et à la brigade des mineurs.
Alors pour moi, rien de particulier, pas de disparition inquiétante. Okay. On a eu à peu près 6 fugues.
J'ai vu juste avant qu'il y avait il y en avait un justement qu'on connaissait assez bien, là, qui avait fugué déjà la semaine passée, je crois.
Ouais.
C'est la brigade des mineurs de Genève qui a mené l'enquête du barbershop l'an dernier. Pour des raisons professionnelles, l'inspectrice qui y a participé a demandé à ne pas être reconnue.
Je vois derrière vous une manchette avec réseau de prostitution de mineurs démantelé. Donc c'est l'affaire du barbershop. Il y a une certaine fierté.
Oui, il y a une fierté dans le sens où on a pu prendre en charge effectivement les victimes et puis leur apporter un encadrement aussi avec d'autres partenaires. Donc c'est plutôt dans le fait d'avoir pu les prendre en charge et le fait qu'elles soient sécurisées maintenant et qu'elles puissent continuer leur vie d'une manière peut-être un peu plus sereine.
Combien de cas de prostitution de mineurs ici à Genève?
On en a recensé en tout cas pour le moment une cinquantaine. Je pense pas que ce soit représentatif. Je pense que c'est en tout cas les cas qu'on connaît, mais le chiffre, à mon avis, est plus important.
Une cinquantaine de cas à Genève, une quarantaine dans le canton de Vaud, ce sont les seuls chiffres connus en Suisse romande.
Du coup, on va aller faire un tour au premier parc, si ça te va.
Ouais, ça roule, comme ça on check.
Ouais. Parfait, super.
Ce soir-là, l'inspectrice part avec sa collègue à la recherche de jeunes fugueurs. Il et elle sont toujours plus nombreux, près de 3000 cas de fugue en 2025, soit 3 fois plus qu'en 2018. Et c'est souvent lors de ces fugues que les jeunes filles se font embrigader.
Est-ce qu'il y a des réseaux de prostitution de mineurs ici à Genève? Quand je dis réseau, donc avec des rabatteuses, MAC, proxénètes?
Il y en a. Après, on n'a jamais tous les éléments, au vu de la thématique qui est assez sensible et discrète. Mais oui, il y en a. Ça fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille. Un jeune qui va trouver finalement ça positif de s'adonner à la prostitution, ça va être un peu une promotion auprès des autres jeunes en disant que c'est chouette de le faire pour avoir de l'argent facilement. C'est vrai qu'il y a une banalisation de la pratique et une normalisation qui fait que pour eux c'est tout à fait normal de le faire et qu'ils voient pas le problème en fait. Allez faire un tour. Tu veux prendre le...
Ouais.
Ouais, parfait, ça marche. En tout cas, moi, de mon côté, il n'y a personne. Voilà, à part le groupe des trois filles.
Bonsoir, mademoiselle.
Bonsoir. On est de la police. Est-ce que vous auriez juste des papiers d'identité? S'il vous plaît. Ouais, super, parfait. Ce sera très rapide. Hein. C'est juste
vous allez où?
Contrôle habituel. Ok. Vous avez quel âge du coup? Ah, vous êtes toutes de 2012. Ok, ça marche. Parfait.
C'est difficile d'auditionner ces jeunes?
C'est vrai qu'il y a des jeunes qui vont avoir très peu confiance en la police, parce qu'ils n'ont pas une image forcément positive de nous et parce qu'il faut créer tout ce lien de confiance. Et dans ce cas-là, ça peut prendre beaucoup de temps, autant pour les contacter que pour qu'ils acceptent en fait de venir dans nos locaux et pour qu'on puisse discuter. Des fois, c'est ça qui prend le plus de temps. Ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années.
De plus, une mineure qui se prostitue commet une infraction selon le code pénal, ce qui ne l'encourage pas à témoigner auprès de la police. Vu toutes ces difficultés pour entrer en contact avec ces jeunes filles, certains ont sollicité l'aide de l'association Aspasie, qui défend depuis des années les travailleurs et travailleuses du sexe. Pénélope Jacardi a ainsi rencontré plusieurs de ces mineurs, essentiellement des jeunes filles.
Avec nous, elles ont beaucoup parlé. Ça, c'est vrai que je pense que l'idée qu'ici, il n'y a pas de tabou autour du sexe payant, parce que c'est ce qu'on fait. Du coup, elles ont pu parler vraiment de manière assez libre de ce qu'elles faisaient, comment elles le faisaient, où elles rencontraient les clients, comment ça se passait pendant les prestations. Et je pense que ça, c'était très utile, parce qu'elles ont pu avoir aussi beaucoup d'informations. On a vu qu'elles avaient beaucoup de lacunes en santé sexuelle, en termes de sécurité aussi, de consommation, enfin voilà. Et donc, on a pu parler avec ces jeunes filles, je pense que c'était très utile. Elle, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle voit dans cette activité une forme aussi d'émancipation, une forme de reprise peut-être de contrôle sur sa vie, une forme de liberté. Et donc, c'est aussi important d'écouter ça. Après, ce qu'on voit, c'est que à 16 ans, on est beaucoup plus vulnérable, parce qu'on est plus naïf, parce qu'on a moins de ressources pour s'opposer à des volontés d'un homme adulte de 40 ans qui va peut-être demander des choses auxquelles on n'avait pas tout à fait réfléchi. Donc, ce qu'on voit, c'est ça. C'est plutôt des jeunes filles qui pensent gérer, mais qui, au fond, sont quand même très jeunes pour effectivement gérer. Et donc, c'est ça qu'on voit.
Ben, je pensais que j'étais grande, que je savais tout, que je gérais la situation, alors que pas du tout.
Pourquoi tu le faisais?
Ben, les 30 minutes, c'était 500 francs. Du coup, une heure, t'as 1000 francs. Ça fait... Si t'enchaînes les clients, ça fait vite beaucoup d'argent. J'ai honte. J'ai sali ma famille, j'ai sali mon image. J'ai tout sali. Je suis considérée comme la pute. Je suis bien plus qu'une pute. Mais j'ai été une pute. Et il n'y a que ça qui compte.
Tamara Bomarito est éducatrice à Genève depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, son mandat est d'accompagner des familles qui n'arrivent plus à gérer leurs ados. C'est dans ce cadre qu'elle est de plus en plus confrontée à des situations de prostitution.
Au début de ma carrière, on avait des cas, mais c'était un peu exceptionnel. C'était des jeunes filles plus en marge, avec un passé un petit peu plus chaotique. Et c'est vrai que depuis quelques années, moi je constate qu'avec l'avènement des réseaux sociaux notamment, ça a démocratisé, en tout cas, l'accès aux prédateurs sexuels à des jeunes filles mineures. Et donc ça augmente le nombre de cas. Ouais.
Clairement, vous en voyez plus ?
Oui, en tout cas, ce que je vois, ce que j'observe, c'est qu'il y a des tentatives d'embrigadement pour des jeunes filles qui étaient encore à l'école primaire. Ça veut dire qu'ils ont 11-12 ans. On sent qu'il y a vraiment une méthodologie. C'est souvent une adolescente plus âgée qu'elle. Et évidemment, il y a toute la flatterie qui va avec. J'ai une ado qui a 15-16 ans et moi, j'en ai que 12, qui s'intéresse à moi, qui devient vraiment, qui crée un lien très fort avec ces jeunes filles. Elle va lui offrir un sac, lui offrir des choses, un taxi, un restaurant. Voilà. Elle va lui montrer qu'elle a la vie assez belle et facile. Et c'est souvent comme ça que l'initiation démarre. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il va y avoir encore de nombreuses victimes, probablement encore ces prochaines années, avant que vraiment tous les efforts soient faits pour qu'on puisse avancer, prévenir, sensibiliser les générations, les adultes, bien comprendre le phénomène.
Il y a une forme d'urgence à agir, ça c'est sûr, parce que je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Donc je pense qu'ici, il faut agir avant d'être complètement débordé, comme l'est la France, même si ça fait, pour le coup, plusieurs années qu'en France, le phénomène est identifié. Il n'y a pas encore de moyens qui sont suffisamment mis en œuvre pour pouvoir accompagner ces personnes.
En France, le phénomène de la prostitution de mineurs explose. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2024, 20 000 mineurs pratiquent le sexe tarifé, soit 140% de plus qu'en 2016. Dans l'immense majorité des cas, ce sont des jeunes filles placées dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Un homme a décidé de partir au combat. Son nom, Michel Hamas. Cela fait maintenant quelques années que cet avocat pénaliste de Marseille est plongé jour après jour dans la réalité sordide de ses enfants.
Combien de cas de prostitution du mineur vous avez en tout ?
On en a un peu plus de 400, là. Et depuis un an et demi, c'est une pandémie. Il y en a, par exemple, en ce moment, sur le dernier mois, on en a rentré un par jour. Le gros, c'est 13 ans.
13 ans ?
13 ans. La plus jeune que nous avons, elle a 11 ans. 11 ans, c'est la sixième.
Ouais.
Si 11 ans, il y a encore des enfants qui croient au Père Noël.
Comment vous expliquez cette explosion de cas de prostitution de mineurs ?
Parce que c'est rentable. Les petits voyous qui faisaient le stup ont compris qu'il y avait un moyen de gagner plus d'argent sans risque. Pour la drogue, il faut acheter le produit en Amérique du Sud. Il faut le ramener, ça coûte très cher. Là, il n'y a pas de coût. Ils vont en voiture, en Audi, devant l'endroit où il y a les enfants. Elles montent et ils partent et ils la ramènent après. Et ils prennent 1500 euros par jour par gamin.
Avec Snapchat, Instagram et les sites d'escorting, les mineurs livrés à la prostitution ne sont qu'à quelques clics.
C'est exactement comme Uber. Vous allez sur votre téléphone, vous tapez le nom de un ou deux sites. En fait, il y en a un essentiellement. Il suffit de choisir la ville dans laquelle on va un enfant. On va aller à Marseille. Et on va scroller comme ça. Quand on n'a qu'une partie du corps, c'est une gamine. Et après, au visage, on voit que c'est une gamine. Ça, probablement, c'est une gamine. Voilà, ça, là, on est sur une gamine. Voilà, là, il y a toutes les positions, tout ce qu'on peut faire, qui est inacceptable. Hein. Et pareil, ce qui est horrible, c'est qu'en moyen de paiement, on paye avec la carte Visa. Ça ne doit pas être compliqué à remonter pour nous. C'est de la consommation de masse d'enfants. Eux, ils n'ont qu'à dire « je n'avais pas conscience que c'était un enfant » et ils vont en CRPC, c'est-à-dire le plaidé coupable à la française pour les petites infractions.
Ah ouais.
C'est comme un feu rouge. On vous propose une punition, en général 300, 400 euros, et ça s'arrête là. Ce qu'on doit savoir, qui n'est pas acceptable, c'est qu'aucune de ces enfants, il y en a 20 000, ne se prostituer avant d'être placé. elles ne se prostituent que parce qu'elles ont été placées auprès de l'État. Et nous, on ne peut pas dire, bah, pas de chance.
Dans l'arrière-salle d'un bistrot marseillais, nous faisons la connaissance de l'une des mineures défendues par Maître Hamas.
Non.
En mitouflée dans son pull roi lion, nous découvrons une jeune fille qui a encore les traits d'une enfant. Aujourd'hui, Lona a 16 ans. Elle s'est prostituée entre 11 et 15 ans, 4 années durant lesquelles elle était placée en foyer. Et cela a commencé dès son arrivée.
Premier jour, directement, il y a une fille qui vient nous parler pour nous proposer d'aller voir des hommes et tout. Je lui dis non. Quelques heures après, elle revient nous voir. En étant un peu plus menaçante, en nous menaçant de se faire séquestrer, violer. Du coup, quand on est sorti, qu'elle nous a amené à l'appartement pour se prostituer, quand je suis partie avec le client, je lui ai directement demandé ce que je devais faire. Et lui, il m'a expliqué, il m'a dit, tu dois me faire une fellation. Sauf que moi, le problème, c'est que je ne connaissais pas c'était quoi une fellation. Donc du coup, je lui demande, il me dit, bah, tu dois me sucer. J'ai dit que je comprends toujours pas. Donc de là, il a dû me montrer ce que je devais faire et tout. Puis après, le troisième client, du coup, j'avais compris ce qu'il fallait faire. Et ça s'est enchaîné pendant 3 jours.
Tu leur dis quel âge tu as ?
Oui. Le premier client, je lui dis que j'ai 11 ans et que j'ai été forcée, que je voulais pas le faire. Il me répond que c'était pas son problème parce que lui, c'était un client. Et que moi, ben, j'étais la travailleuse. Donc, je lui ai fait la prestation à lui aussi. Et sinon, je ne l'aurais pas tué mon âge aux autres. Mais il voyait très, très bien que je n'étais pas majeure, que je n'avais pas 19 ans. Bah, déjà qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une tête de bébé alors que je vais faire 17 ans. À 11 ans, c'était pire. C'était pire.
Ça se passait où, ces prestations ?
Dans les voitures. C'était que des plans en voiture, dans leur voiture à eux. Ils nous amenaient dans la forêt, ou ils nous amenaient sur un parking. Ça dépendait. Je me sentais écœurée, dégoûtée. J'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à boire, enfin, j'arrivais pas à mettre un truc dans ma bouche parce que ben, je l'avais fait une fellation. Je me sentais sale. Je me sentais dégueulasse.
Tu penses que tu as compris à 11 ans ce qui s'était passé vraiment ou...
Non. Non, je comprenais pas. J'ai, entre guillemets, vraiment réalisé à l'âge de 14 ans.
Après avoir changé plus de 10 fois de foyer, Ilona atterrit dans celui du PEPS à Marseille. Un établissement qui a défrayé la chronique pour ses graves dysfonctionnements.
Ça se plantait, ça se frappait, agression au couteau, n'importe quoi.
Ouais.
C'est dans ce foyer gangréné par la violence que l'adolescente va être amenée à 14 ans à se prostituer de son propre chef.
Il n'y avait que de la violence. Du coup, je m'inscris sur un site de prostitution. J'envoyais mon snap au client. Directement, je leur envoyais les photos, tout ça. Et l'adresse, ils venaient me chercher devant le foyer, en fait.
Donc, devant le foyer ?
Oui.
Les éducateurs te voyaient partir ?
Les éducateurs me voyaient partir. Il y a des caméras du foyer, donc ils voyaient la plaque de matriculation, la personne dedans, tout. Et puis c'est eux qui m'ouvraient le portail pour que je sorte.
Et pour toi, ils savaient clairement que tu te prostituais ?
Oui.
C'était évident ?
Oui, je le savais. Et puis, il y a une autre fille aussi qui s'est prostituée dans le foyer. Moi, je suis allée les voir pour leur dire. Et ils m'ont répondu que c'était pas la première, que ça allait pas être la dernière.
Nous nous sommes rendus devant le foyer en question vers 18h30. Une heure où, d'après Ilona, il n'est pas rare de voir des jeunes sortir librement. C'est ce que nous avons pu constater à plusieurs reprises.
Excusez-moi, je peux vous poser une question ? Vous êtes au foyer ?
Oui.
Parce que je suis journaliste. Vous pouvez pas me parler par rapport à la prostitution ? Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous agresser.
La caméra là, ils vont vous voir. Donc.
Ah ouais, d'accord.
En revanche, ce jour-là, pas de voiture, ni de client qui les attend.
Et la plupart de nos enfants, ils ont beaucoup plus de liberté quand ils sont placés que lorsqu'ils ne l'étaient pas. Parce que dans les familles, le soir, la porte est fermée. Il faut qu'on réagisse, que l'État français prenne des mesures pour que ça ne soit plus possible. Étant entendu que pour que ça soit plus possible, il y a un truc tout simple à faire, qui coûte zéro. Il faut que les foyers soient fermés. Il ne peut pas
fermer que la porte soit fermée à clé, en fait. C'est ça que vous voulez dire.
Tout à fait. Ouais. Le coupable, le responsable essentiel, c'est l'aide sociale à l'enfance. Parce que, au lieu de faire leur travail qui est de protéger l'enfant, ils se protègent eux-mêmes. Quand ils découvrent qu'un enfant est toxicomane, prostitué, au lieu de mettre en place suivi médical, suivi psy, de créer une audience, de gérer ensemble, il n'y a pas de réaction. Et surtout, il y a ceux qui laissent sortir les enfants, qui ouvrent la porte. Ce qu'ils font, c'est immonde. Ils disent « Comment voulez-vous qu'on les protège ? Ils fuguent pour aller se prostituer. » C'est pas du tout ça. Alors en disant que l'enfant est en fugue, ils inversent la responsabilité, c'est l'enfant qui est sale.
Toi, Ilona, qu'on soit bien clair, avant le foyer, tu connaissais rien à la prostitution.
Je connaissais rien. Rien à la prostitution, rien au sexe, rien du tout. La cocaïne, l'extra, plein de trucs autres, c'est au foyer que j'ai découvert tout ça. Mmh. J'étais en voiture avec eux. Je pense que tu m'en veux, je pense à toi, mon ami. Mais pas à
moi, cache ta porte, ta serrure. Demande à ma daïa, tu te lances. Là, t'es avec un client.
Ouais. Si j'étais avec un client.
Ok.
Je pensais à rien pendant la prestation, je pensais juste à finir et à partir rentrer en fait. Je coupais mon cerveau et. Je fermais mes yeux, je faisais la prestation et je pensais à rien du tout.
T'as honte de ce que tu as fait ?
Oui. Oui. Avant, j'arrivais pas à me regarder dans le miroir. Je me voyais en train de faire les prestations et je voyais mon visage en étant petite.
Ça te fait quoi quand tu vois les photos quand t'es petite ?
Ça me choque. J'étais hyper petite, hyper mignonne. En fait, moi, j'ai grandi trop vite.
Ouais.
C'est ça que je regrette un peu.
Face à tant de détresse, Michel Hamas a choisi de monter au front et de se poser en lanceur d'alerte.
Au début, on l'a fait posément, avec beaucoup de gentillesse. On a fait des courriers en disant « c'est pas bien ce qui se passe ». Ils ont eu le même effet que le dentifrice sur le cancer du foie. Ça a intéressé personne.
Donc là, vous criez quoi ?
Ben là, on a fait ce qu'on aurait dû faire avant, d'engager la responsabilité des présidents de département, parce que le seul qui est juridiquement responsable, c'est le président du département.
Nous avons cherché à avoir la réaction de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, mais sans succès. L'avocat marseillais sillonne toute la France pour défendre des parents qui cherchent à sortir leurs enfants des foyers et de la prostitution. Ce jour-là, nous le retrouvons au tribunal de Chambéry, à une heure de la frontière suisse.
Alors là, nous venons défendre une famille où on a tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qui est un échec. On est dans un échec total de la mesure. On peut affirmer dans ce dossier-là qu'il n'y a aucune protection de l'enfant par l'État.
Ce dossier C'est l'histoire cauchemardesque d'une mère, Caroline. Quelques jours après l'avoir rencontrée au tribunal, nous la retrouvons dans le massif de la Chartreuse, chez une amie qui l'a recueillie.
On s'organisait, on allait en camping et tout. C'est pour ça que j'ai un camion aménagé. On partait dedans.
C'était cool pour eux.
Ouais. Là, c'est encore Juliette. Parce qu'elle faisait un bisou à Louise. Elles étaient très, très soudées. Hein. Elles étaient tout le temps... Puis d'ailleurs, même avec les petits, on était tout le temps ensemble. J'ai 6 enfants que j'adore. Et qui, du coup, sont placés. Ont été placés, les filles, 6. Voilà, les 6. On me les a enlevés parce que, par rapport aux violences donc, de leur beau-père. C'était souvent des dénigrements psychologiques, des insultes, beaucoup d'insultes. Il m'a frappée une fois, donc. Mais par contre, les filles, elles ont vraiment... Il les enfermait, il les a frappées, il a fait des attouchements aussi à mes filles, donc ça a été très compliqué. Et en allant m'adresser à l'aide sociale à l'enfance, je pensais qu'ils allaient m'aider. Et à partir du moment où j'ai dit qu'il les avait frappées, elle a dit, en place. Et puis voilà, quoi.
C'était en juin 2023. Le compagnon de Caroline a été incarcéré. Et les 3 sœurs ont été placées. Elles avaient 12, 13 et 15 ans.
En foyer, donc, je vois par rapport à Juliette, très vite, elle se fait calculer par des dealers. Ils lui ont laissé deux choix. Ils lui ont dit, soit tu vas pour la prostitution, soit tu vas pour vendre de la drogue. Et elle a dit, non, c'est hors de question que je me prostitue. Donc, du coup, elle a dit, moi, je vais vendre.
Et la deuxième ?
Elle a commencé à se droguer, à devenir dépendante. Et elle était avec une petite amie qui se prostituait. Et c'est là qu'en fait, elle a commencé à tomber dans la prostitution, quoi.
Comment vous l'avez appris ?
Alors, comment je l'ai appris ? Je l'ai appris que le foyer m'a appelé en me disant « votre fille avait un test de grossesse positif. »
À 13 ans, donc ?
Voilà, là, elle avait 14 ans, quoi. Et là, moi, ça a été l'effondrement, quoi. C'est horrible. C'est horrible quand on entend ça, quand on... Fou, c'est... Il n'y a même pas de mots, en fait. Elle disait à sa sœur, mais c'est de ma faute, puisque c'est moi qui me suis rendue là-bas. Donc, en fait, elle avait de la culpabilité. Du coup, elle a eu tellement honte qu'elle s'est... Elle voulait plus me parler, quoi.
L'adolescente de 14 ans s'est prostituée pendant toute la période où elle était en foyer, le plus souvent dans des hôtels de Chambéry.
Que je leur ai dit, maintenant vous faites quelque chose, parce que ça ne peut pas faire. Moi, je ne veux pas supporter que ma fille elle se prostitue, en fait. Donc, ils ont dit, on va faire un séjour de rupture. Donc, ils l'ont placée au Sénégal, et pour un séjour de désintoxication, de rupture. Mais ça veut dire rupture avec ses copains, ses camarades, ses fréquentations, mais également avec ses parents, quoi, enfin sa famille.
Dans une structure d'accueil ou...
Oui, c'est ça, dans un foyer. Dans un foyer, mais on n'a pas vraiment d'informations, en fait.
Comble de l'insupportable pour cette mère, en décembre 2024, l'aide sociale à l'enfance a décidé de lui enlever aussi ses 3 derniers enfants, estimant qu'elle était dépassée par la situation.
Je me suis dit, là maintenant, je ne peux plus rien faire pour eux. Donc en fait, je me suis dit, ce soir, je vais mourir, quoi. C'est fini.
Nos clients sont KO debout. On a des gens qui se suicident. On a un papa qui s'est suicidé il y a un peu plus d'un an à Paris, quand il a appris que sa fille se prostituait. On a une maman, quand elle a appris que sa fille se prostituait à Brest, elle s'est jetée d'une falaise avec son nourrisson dans les bras. Tous les 3 mois, on suit un cercueil, un grand, un petit, un papa, un maman, une grand-mère, un enfant.
Un enfant aussi.
Ah non, mais évidemment qu'on a des enfants qui se suicident. Mais on a des enfants qui se suicident tous les trimestres.
Bon, tu veux une tisane ?
Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Vas-y.
Ça, merci. Hop.
Pour moi, c'est trop difficile d'être chez moi, en fait, d'être entourée de toutes les chambres de mes enfants, des jouets de mes enfants.
Merci.
Heureusement, aujourd'hui, Caroline est bien entourée par son amie Shanti, mais aussi par sa famille. Grâce à eux et grâce à sa foi, elle garde espoir.
Donc maintenant, ce qui me tient, c'est d'avoir l'espoir de les récupérer, quoi. Parce que je veux pas les laisser là-bas. C'est trop dangereux, c'est trop risqué. Donc en fait, ma priorité, c'est vraiment de les récupérer et le plus vite possible.
Retour aux portes de Genève, à Annemasse. Le 5 février dernier, branle-bas de combat transfrontalier. Face à l'urgence, policiers, juges, avocats et travailleurs sociaux suisses et français se retrouvent pour la première fois. Le conseil départemental de Haute-Savoie nous a interdit de filmer la réunion, mais à la sortie, tous les protagonistes faisaient le même constat. Il faut créer des foyers spécialisés pour ces mineurs et faire évoluer aussi le cadre légal.
Aujourd'hui, il va bien falloir qu'on mette une définition sur ce qui est l'infraction et ce qui ne l'est pas. Tant qu'on laissera planer le doute sur le fait de réaliser des actes de prostitution en tant qu'autrice ou auteur est une infraction, les jeunes n'oseront pas venir chercher de l'aide. Tant qu'on laissera planer le doute sur le fait que ce n'est pas si grave que ça d'aller consommer de la sexualité avec une jeune fille parce que bon, elle a 16 ans, ou avec un jeune garçon parce qu'il est trans, alors quand même c'est normal, il se développe, il se connaît, on n'arrivera pas à faire quelque chose.
Il faut qu'on puisse avoir des structures qui sont suffisamment accueillantes pour accepter que ces jeunes filles vont venir, vont repartir et vont revenir. Ça ne peut pas être des structures classiques parce qu'il y aura le risque que ces jeunes filles vont entraîner d'autres jeunes filles. Donc il faut qu'on puisse avoir quand même quelques structures, non seulement à Genève, mais je pense aussi à l'extérieur, pour qu'elles puissent sortir d'un certain milieu, qui puissent dire, voilà, notre porte est ouverte, et quand tu as besoin, on t'accueille, etc. Et à un moment, ça peut marcher.
Séverine Schifferli était elle aussi présente au colloque à Annemasse. Mais contrairement aux autres protagonistes, la représentante des foyers reste confiante.
Bien sûr qu'il y a une inquiétude, mais on a la chance, en tout cas à Genève, d'avoir un réseau qui est très réactif par rapport à toutes ces situations. On a la chance d'avoir des partenaires sur lesquels on peut compter. La bonne collaboration avec le reste du réseau de la protection de l'enfance fait que l'ensemble de ces situations est finalement pris en main. Donc oui, on est inquiet, mais on est inquiet de la même manière qu'on est inquiet pour tout ce qui touche l'enfance et l'adolescence.
Aujourd'hui, Sarah vit dans une structure d'éducation quelque part en Suisse romande. La jeune fille va y rester encore plusieurs mois, le temps pour elle de rompre avec son environnement nocif et de suivre une psychothérapie. Jour après jour, elle apprend à se faire confiance. Elle va bientôt commencer un apprentissage.
Aujourd'hui, ça va. Je me relève. Il y a toujours des moments où ça va pas et des moments où ça va. Je fais des cauchemars. Même quand je rêve, j'ai des scènes qui me viennent à l'esprit. J'ai l'impression de les revivre. Mais je fais de mon mieux pour m'en sortir.
Tu as accepté de témoigner aujourd'hui. C'est vraiment très courageux de ta part. Pourquoi tu veux témoigner, Sarah ?
Là, en étant dans le foyer dans lequel je suis maintenant, je vois beaucoup de filles qui sont en train de tomber dedans, ou qui sont dedans, ou qui veulent le faire. En fait, la peur que je ressens pour elles, j'imagine pas la peur d'un parent quand c'est sa fille qui tombe dedans. Donc si moi, je peux, à mon échelle, peut-être sensibiliser les filles à ce que c'est vraiment, que c'est pas que de l'argent. C'est des années après de... Moi, ça fait 2 ans que j'ai arrêté, mais ça fait 2 ans que je souffre. Si je peux leur éviter toutes ces souffrances, avec grand plaisir.